France Inter. 10.
Mardi 7 mai, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des pourparlers in extremis encore aujourd'hui au Caire pour une trêve à Gaza.
Israël bombarde Rafah pour mettre la pression sur le Hamas qui a donné hier son feu vert, témoignage dans un instant. L'inquiétude des juges aux enfants, la France incapable, disent-ils, de protéger les mineurs en danger. En Ukraine, des femmes de prisonniers cherchent leur mari depuis 2 ans et puis des cachalots. Nounou, c'est la découverte étonnante d'une équipe d'océanographes.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Rodolphe Saadé, PDG de CGA-CGM, troisième armateur au monde, 47 milliards de chiffre d'affaires. Le transport maritime peut-il être propre, peut-il être vert? La mer Rouge est devenue un théâtre de guerre. Qu'est-ce que ça change pour nous, les consommateurs en bout de chaîne? Pourquoi Rodolphe Saadé s'est-il offert BFM TV? Réponse à 7h50.
À tout à l'heure. Trois rendez-vous, 8h20, le grand entretien. Entretien de la matinale avec Jordan Bardella, président du Rassemblement National et tête de liste aux européennes. 9h05, table ronde en hommage à Bernard Pivot avec de très nombreux invités. Et 9h20, Léa Salamé reçoit la chanteuse Zao de Sagazan en concert ce soir à la Maison de la Radio.
France Inter.
D'intenses bombardements israéliens sur Rafah cette nuit et de nombreux morts selon les autorités palestiniennes. L'offensive terrestre sur cette ville où s'entassent plus d'1 million de Gazaouis déplacés semble bel et bien se préparer malgré l'opposition répétée encore hier des États-Unis. Hier, des milliers de Palestiniens ont commencé à évacuer dans la panique jusqu'à l'annonce dans la soirée du feu vert du Hamas à l'accord de trêve. Mais le bureau de Benjamin Netanyahou estime que cette proposition est loin des exigences israéliennes et le cabinet de guerre a décidé de poursuivre son opération à Rafah. Noé Pignade a donc joint des Gazaouis partagés entre espoir et incertitude.
C'est par des scènes de liesse largement diffusées sur les réseaux sociaux que les déplacés de Rafah ont accueilli hier soir l'accord du Hamas en faveur d'un cessez-le-feu. Mais 2 heures plus tard, l'armée israélienne reprend son offensive et cible des bâtiments autour de la ville. Asma est réfugiée à Rafah avec toute sa famille, épuisée par 7 mois de guerre.
On a tous peur, on a pleuré, on fait plein de prières pour les gens. On souhaite bien avoir une trêve. Toute la bande de Gaza est détruite, il n'y aura seulement Rafah. Après Rafah, on doit y aller où? On doit y aller en Égypte.
Saïd, lui, n'attend plus rien de l'armée israélienne. Terrorisé par l'annonce d'une offensive terrestre, ce Palestinien a quitté Rafah. Et pour lui, pas question de rejoindre les zones définies comme sûres par Israël.
En tant que Gazaoui, on ne fait plus confiance à l'armée israélienne. J'ai déjà fui 3 fois depuis le début de la guerre. Et à chaque fois, les zones où l'on nous a ordonné d'aller ont été bombardées. La plupart des amis qui étaient avec moi sont morts, et leurs familles aussi.
Comme tous les Gazaouis, Saïd va suivre minute par minute les négociations au Caire aujourd'hui, avec l'espoir que cette guerre s'arrête enfin.
Le Qatar envoie dès ce matin en effet une délégation au Caire pour relancer les négociations directes. Israël refuse le retrait de ses troupes tant que l'opération sur Rafah n'est pas terminée. Alors que les familles d'otages, elles, estiment le moment venu de trouver un accord pour leur retour. Cette nuit, des heurts ont opposé à Tel Aviv ou à Haïfa des policiers israéliens à des manifestants en faveur d'un accord de trêve.
Il est 7h04, sa liste domine les sondages pour les européennes du 9 juin.
Le leader du Rassemblement National, Jordan Bardella, espère creuser encore l'écart avec la liste de la majorité. Et ce matin, nous nous penchons sur le bilan européen du parti lepéniste qui siège et vote depuis 5 ans à Strasbourg. Des votes scrutés par le fondateur d'un cabinet de lobby dédié aux acteurs de la transition écologique. Analyse publiée aujourd'hui qui raconte comment Élodie Fauré, le Rassemblement National, vote contre les mesures écologiques, mais surtout de façon très alignée avec les grands lobbies industriels.
C'est la bête noire du patronat européen, le devoir de vigilance qui oblige les grandes entreprises à se doter notamment d'un plan de transition climatique. Business Europe, lobby patronal, a mené une longue campagne pour s'y opposer, soutenue dans l'hémicycle par les eurodéputés RN. 2023, cette fois c'est McDonald's qui mène une offensive marquante. Ces lobbies allant jusqu'à placarder des affiches sur les portes des élus pour que la vaisselle jetable ne soit pas interdite. Une fois encore, le Rassemblement National s'aligne. Jordan Allouche, fondateur d'Ecolobby.
Le Rassemblement National est du côté des grands patrons, il est du côté des grandes industries, il est du côté des pouvoirs économiques. Il y a une contradiction entre le discours et les actes.
Contradiction parfois frappante entre le vote et le programme. Alors que le parti est favorable à une taxe des super-profits, les eurodéputés, eux, s'abstiennent sur une résolution qui invitait à taxer les profits exceptionnels des géants de l'énergie. Abstention aussi sur l'amendement Ferrari qui accorde aux constructeurs de voitures de luxe un délai supplémentaire pour passer au tout électrique, à rebours d'un discours anti-élite tenu encore par Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle.
Et Jordan Bardella, je vous le rappelle, est l'invité d'Inter tout à l'heure à 8h20. Les entreprises privées qui ont par ailleurs été les principales bénéficiaires du plan de relance post-Covid en captant près des deux tiers des 73 milliards d'euros de fonds dépensés selon l'Observatoire des multinationales ce matin. À l'origine, les fonds du plan France Relance devaient être fléchés vers la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale. Gabriel Attal parle de déferlante antisémite. Le Premier ministre, hier soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a annoncé que 366 faits antisémites avaient été enregistrés en France au premier trimestre. On y revient dans le journal de 8 heures. Ils sont parfois en danger au sein même de leur famille, mais la justice en France est-elle capable de protéger réellement ces enfants? Douloureux sujet alors que la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de ce qu'on appelait la DAS débute ses travaux. Hier, le syndicat de la magistrature a présenté les résultats de sa vaste enquête sur les dangers encourus par les mineurs. Et Delphine Evenou, le constat est accablant.
À Périgueux, Bourgoin-Jallieu, à Niort, Vesoul, Brive-la-Gaillarde, les juges des enfants suivent plus de 600 situations, un enfant ou une fratrie, quand la norme du ministère de la Justice est fixée à 325. Des juges débordés, dont les décisions ne peuvent pas toujours être appliquées. Plus de 3300 placements restent ainsi inexécutés, faute de place dans des familles ou structures d'accueil. Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature.
Ça veut dire des enfants qui sont en danger grave, victimes de violences physiques, de violences sexuelles, de négligence, de défauts de soins, qui sont identifiés, que le juge a rencontrés, que le juge a décidé de confier à un tiers et qui restent dans leur famille car il n'y a pas de place pour les accueillir.
Et à ces placements non exécutés s'ajoutent ceux qui sont mal exécutés. Olivier Treneul, travailleur social dans le Nord, porte-parole du syndicat Sud.
J'ai cité tout à l'heure l'exemple de ce petit bonhomme de 4 ans sur mon département à Valenciennes qui, entre octobre et mars, a connu 12 lieux de placement.
Avec son étude, le syndicat de la magistrature espère prouver le caractère systémique des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. En 2022, 60 enfants ont subi une mort violente au sein de leur famille. C'est un enfant tous les 6 jours.
Explication Delphine Evenou.
Il est 7h08, il est à la tête de la Russie depuis un quart de siècle et pourrait, Anaïs, y rester au moins jusqu'en 2030.
Vladimir Poutine, 71 ans, investit aujourd'hui officiellement pour un 5e mandat de président après sa victoire sans opposant. La cérémonie débute en fin de matinée sous les ordres du Kremlin alors que la Russie gagne du terrain en Ukraine après la prise d'Avdiivka en février au terme d'un combat acharné qui rappelle celui de Mariupol il y a 2 ans. La ville est aujourd'hui occupée par la Russie, mais le 16 mai 2022, les combattants ukrainiens du régiment Azov finissaient par se rendre. Certains victimes 2 mois plus tard d'une attaque sur leur prison d'Olevka. Aujourd'hui, les familles des survivants se battent pour leur retour. Reportage à Kiev de Virginie Pironon.
Le conjoint de Maria, Sergueï, a été grièvement blessé au combat, puis lors de l'attaque de la prison d'Alenivka. Le sourire triste, la jeune femme de 26 ans n'a depuis aucune nouvelle de lui, à part 50 petites secondes d'une vidéo diffusée par la propagande russe.
Mon mari était allongé sur un lit d'hôpital. Sergueï avait l'air épuisé. On pouvait voir sur son visage qu'il avait été blessé, peut-être par des éclats d'obus, mais dans cette vidéo, il dit être blessé à la jambe.
Juste avant le début de la guerre à grande échelle, Anna a accouché d'une petite fille. Son mari, Aler Lobov, 32 ans, est lui aussi détenu en Russie, mais personne ne sait précisément où il se trouve et dans quel état de santé.
Je ne peux pas dire qu'il ne se passe rien du côté des autorités. Il y a bien des échanges de prisonniers. Ce n'est pas que je suis en colère, c'est juste qu'on ne comprend pas pourquoi la situation avec les prisonniers du bataillon Azov est bloquée. C'est incompréhensible. Bien sûr, c'est déprimant, parce qu'on ne sait pas quoi faire de plus.
Nos maris, poursuit Anna, se sont battus en héros. ils ne doivent pas être oubliés.
Virginie Pironon à Kiev. L'Ukraine y lancera question aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le président chinois dans les Pyrénées. Déjeuner au col du Tourmalet où le chef de l'État passait ses vacances enfant. Un décor plus intime pour permettre, espère l'Élysée, un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine.
7h10 des Molières 2024. Très politique hier soir.
Et oui, la question des coupes budgétaires dans le théâtre évoquée hier aux Folies Bergères devant la ministre de la Culture qui n'a pas pris la parole. Côté récompense, coup de chapeau à Vincent Dedienne ou Sophia Aram. Quant au spectacle, Stéphane Capron, c'est un palmarès équilibré et engagé.
Le sort de l'Iran aura été au cœur de cette soirée grâce aux Molières du théâtre privé qui revient à la pièce 4211 km, un spectacle de la metteuse en scène Nailia Navidi qui raconte l'exil de deux réfugiés iraniens entre Paris et Téhéran.
Ça représente un message politique pour moi, à tous ceux qui se battent pour la liberté en Iran. Et nous, on essaie, en tant qu'exilés, de relayer leur voix comme on le peut. Et mon moyen à moi, ça a été de trouver le théâtre.
1200 visages de professionnels représentant tous les métiers du théâtre ont été affichés en soutien aux victimes de violences et de harcèlement. C'est l'un des thèmes justement du spectacle d'Eva Rami, récompensé dans la catégorie du seul en scène.
C'est un long travail de 3 années de réécriture, de qu'est-ce que j'allais dire pour me protéger, qu'est-ce qu'il fallait dire aussi pour toucher. Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi beaucoup pour les autres.
La décentralisation n'a pas été oubliée. Le Molière du théâtre public a été remis au Moonstrom Théâtre pour une pièce de copie créée à Mulhouse et portée par Lionel Lingelser.
C'est un honneur pour nous aussi de recevoir ça parce qu'on se bat aussi dans ce monde un peu particulier qu'est le théâtre public, avec des écritures subversives aussi, des récits qui ne sont pas faciles à faire entendre, mais qui ouvrent les imaginaires, qui ouvrent les cœurs.
Un théâtre public dont les ressources s'amenuisent, comme l'ont rappelé plusieurs artistes hier soir face à Rachida Dati.
Stéphane Capron en football, c'est le jour de vérité pour le PSG qui reçoit Dortmund ce soir au Parc des Princes. Battu 1-0 à l'aller, les Parisiens peuvent renverser les Allemands pour accéder à la finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h. Enfin, voici une formidable histoire de nounou chez les cachalots, les plus grands des cétacés à dents. Ce mammifère allaite son petit et pour la première fois, un caméraman a réussi à filmer ce moment intime dans l'océan Indien près de l'île Maurice. Les chercheurs ont mis aussi en évidence l'existence de nounous, des femelles qui n'ont pourtant jamais eu de petits, Sophie Bécherel.
Deux femelles qui laissent téter le même bébé.
François Sarano, spécialiste des cétacés, décrit les dernières images de son équipe au large de l'île Maurice et la question que cela pose.
Pourquoi ce bébé tète-t-il deux femelles? Cela veut dire que cette relation sociale qui est l'allaitement ne définit pas pour autant le lien de parenté. Donc, on a fait une analyse génétique.
À partir de morceaux de peau qui desquament, l'arbre généalogique du clan de 30 cachalots a été dressé. Et, aux surprises, des femelles allaitent des petits avec lesquels elles n'ont aucun lien de parenté. Grâce à des centaines d'heures de suivi quotidien, les chercheurs ont découvert le rôle de nourrice joué par Germine, une femelle qui s'est occupée de 15 petits. Une nourrice authentique que les mères sollicitent quand elles partent à la chasse aux calmars.
Depuis 2011, elle se laisse téter par tous les petits. Mais jusqu'à l'année dernière, elle n'avait pas de lait. Et l'année dernière, nous l'avons filmée allaitée avec évidence de lait, donc une montée de lait sans naissance.
Un mystère complet. Les scientifiques émettent l'hypothèse que c'est la prolactine émise par des femelles à proximité qui a pu générer chez Germine une montée de lait. Mais cela reste à vérifier. Ce programme de suivi unique au monde se poursuit. Il a déjà donné lieu à 6 publications scientifiques.
Voilà les cachalots nounous, encore beaucoup de questions.
Oui, merci. J'allais dire merci Sophie Bécherel.
Oui, mais merci à elle.
Et merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom. Et si la solution à la crise du logement était l'imprimante 3D.